Bon, bah écoutez, il est 5, donc je pense qu'on peut commencer. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des apprentis auteurs ou des auteurs en devenir. J'ai essayé de concevoir cette présentation un petit peu pour eux et aussi de témoigner de mon expérience d'auteur. Je ne sais pas s'il y a un micro. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile que j'en cherche un? Ou vous m'entendez bien? Tout va bien? Je suis enseignante hein, dans la vraie vie, donc en général, je parle devant un public assez fort. Bon, alors, le défi qu'on m'a proposé consiste à parler de la question de la temporalité quand on écrit des nouvelles de science-fiction, ce que je fais assez couramment. Et en réfléchissant à cette thématique, je suis arrivée à l'idée qu'on pouvait la prendre sous différents angles. La question de la temporalité du récit par rapport à la temporalité des événements racontés par le récit, et puis aussi les modalités de la narration que l'on peut choisir diversement et qui se relie à la question du point de vue et à la question du narrateur. Donc je vous propose d'explorer ça ensemble. En commençant par la question de la relation entre, comment construire déjà la temporalité d'une nouvelle? Une nouvelle, c'est un récit court. Il m'a semblé qu'on pouvait faire un parallèle entre la temporalité de la nouvelle et la temporalité qui est habituellement rappelée quand on parle du théâtre classique et de la manière dont il faut l'envisager. Pour le théâtre classique, on dit habituellement unité de lieu, unité d'action et unité de temps. Qu'est-ce qui est valable pour la nouvelle? L'unité de temps, eh bien, je ne pense pas, pour des raisons qu'on développera tout à l'heure, qu'on puisse envisager d'écrire une nouvelle qui se déroule sur des générations, sur des centaines d'années, qui couvre l'histoire d'une planète ou d'une civilisation. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marchera beaucoup mieux si vous concentrez votre récit sur une période temporelle courte. Donc, l'unité de temps, on a tout intérêt à l'utiliser, à la conserver comme fil conducteur. Votre nouvelle sera probablement beaucoup plus percutante comme ça. Après, pour... j'ai du mal à rester assise et puis je vous vois pas si je reste assise. L'unité de lieu. Bon, l'unité de lieu dans le théâtre, elle était essentiellement liée à la question des décors. Si vous changez de lieu, il faut changer les décors, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Dans la nouvelle, c'est pas du tout une contrainte. Vous pouvez changer de décor comme vous en avez envie, vous pouvez faire voyager vos personnages et votre histoire à la vitesse de la lumière si ça vous arrange. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on n'a pas à respecter de contraintes relatives au lieu. Mais là, je commence à utiliser tout de suite des vilains mots qui font peur. Il y a une différence essentielle entre le théâtre et la nouvelle. Dans le théâtre, ben, c'est là qu'il y a un vilain mot qui fait peur. Le narrateur est extra-diégétique. Diégétique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme. Moi, je l'ai découvert grâce à un auteur dont je vous reparlerai, qui est Elisabeth von Arburg, qui a beaucoup travaillé sur la question du narrateur. La diégèse, c'est le récit. Donc, ce qui est extra-diégétique, c'est ce qui est en dehors du récit. Quand le narrateur ne fait pas partie du récit, on peut dire donc qu'il est extra-diégétique. Si vous regardez une pièce de théâtre, vous ne savez pas qui la raconte, et la question n'a même pas de sens, elle n'est pas pertinente. On vous raconte l'histoire, point. On ne se demande pas ni qui est le narrateur, ni où il est, ni même quand il est. Parce que c'est la question du quand qui va être notre fil conducteur. Quand vous regardez une pièce de théâtre, le narrateur virtuel, qui n'existe pas, peut vous raconter ce qu'il a envie de vous raconter, du moment que l'unité de lieu est respectée. Il se passe des choses, à un moment donné, sur scène, dans un décor, et vous n'avez pas à vous soucier de qui raconte l'histoire et comment il est positionné. Par contre, quand vous écrivez un récit, vous êtes obligé de vous poser un certain nombre de questions sur le narrateur et son positionnement. Ce qu'on appelle un narrateur omniscient, c'est un type de narrateur que l'on rencontre assez fréquemment. C'est celui qui sait tout, c'est-à-dire celui qui sait tout ce qui se passe, partout, à tout moment, à propos de tous les personnages, à propos de tous les lieux concernés par l'histoire, à propos de toute l'histoire des événements qui se sont déroulés autour, et éventuellement qui sait même exactement tout ce qui se passe dans la tête de tous les personnages. Un narrateur omniscient, on en reparlera, il est un peu pénible. Quelqu'un qui sait tout est toujours un peu pénible. On utilise couramment aussi des narrateurs qui sont alignés sur un personnage. Alors, il y a plusieurs manières de s'aligner sur un personnage. On peut s'aligner de manière plus ou moins proche. Si vous êtes aligné sur un personnage au sens où vous voyez la même chose que lui, vous savez la même chose que lui, vous suivez les événements comme lui les suit, les péripéties de l'action que vous pouvez découvrir, ben vous les découvrez en même temps que lui. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la proximité avec lui. Vous pouvez même savoir tout ce qu'il pense, ça c'est un choix que vous faites ou non, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il interprète, tout ce qu'il comprend. Il y a toute une série de gradations possibles dans la. On pourrait faire une métaphore filmique dans la position que vous choisissez de donner à la caméra par rapport à ce qui va être filmé, plus ou moins proche. Alors, on commence à rentrer dans la question des points de vue en posant cette question de la position du narrateur. Et si vous écrivez une nouvelle, il sera probablement assez délicat, mais pas impossible, de modifier le point de vue et d'en changer. On va essayer de voir de quelle manière on peut le faire sur un texte court. Je précise une chose, on n'est pas hyper nombreux, on n'est surtout pas dans un cours magistral. Donc si n'importe qui a envie de poser n'importe quelle question à n'importe quel moment, il est bienvenu. Et ça commence tout de suite.
Oui, là, non, alors là, du coup, là, on sort un peu bah, du texte, mais je me demandais, du coup, pour la bande dessinée, est-ce qu'on se rapproche plus du point de vue du théâtre ou du point de vue du texte?
Je pense que dans la bande dessinée, on est obligé de faire des choix sur à propos de l'angle, ce qu'on choisit pour décrire les situations, de la proximité et aussi de ce qu'on peut voir. Donc pour moi, on est plus proche de l'écriture narrative, il me semble, même si on reste sur le visuel. Oui, Bruno.
Pourquoi tu ne peux pas avec le théâtre? Parce qu'au théâtre, il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de récit.
C'est bien ce que je dis.
Mais c'est pour ça, il n'y a pas de récit. Par contre, le narrateur à la première personne, c'est encore autre chose.
Oui, c'est un narrateur aligné avec une proximité maximale. Alors, on va revenir sur tout ça. J'ai quand même essayé, par rapport à ces questions, de me centrer sur la question de la temporalité, parce que c'est l'exercice qu'on m'avait imposé. Donc, on pourra y revenir, je pense. Mais je vous propose, pour en revenir à la question de la temporalité, de comparer le temps des événements. C'est l'histoire qui progresse au rythme d'un temps qui est le temps que nous connaissons habituellement, qui est un temps linéaire, continu, en tout cas, quand on le décrit de manière objective. On le décrit sous cette forme, avec des horloges qui décrivent 24 heures par jour. Voilà, c'est le temps qui passe. Et puis, on peut mettre en parallèle ce qu'on choisit de montrer à travers le récit, qui va nécessairement s'exprimer sous la forme de séquences de texte. Ce sont des séquences discontinues, c'est-à-dire qu'il y a des moments dont vous ne parlerez pas. Par exemple, vous ne parlerez pas des moments où vos héros sont endormis. Il ne se passerait pas grand-chose d'intéressant. On ne peut même pas concevoir que vous ayez une structure du récit qui soit en concordance avec le temps des événements. Ce n'est pas concevable. Il y aurait des tas de moments très ennuyeux. Puis vous n'allez pas raconter des tas de moments inintéressants où vos héros vont aller faire pipi ou je ne sais quoi d'autre. Donc, vous allez faire un choix parmi les moments, ce qui veut dire qu'il y a des moments dont vous choisissez de ne pas parler. Et il y a aussi des moments où le rythme du récit va se décaler par rapport au rythme des événements. Donc, je vous propose d'essayer de comparer les différentes manières dont cette concordance peut se construire. Voilà la forme la plus classique et la plus simple de récit que vous pouvez mettre en place dans une nouvelle. Vous avez un temps des événements et vous avez un temps du récit qui va dans le même ordre, c'est-à-dire que les événements se déroulent chronologiquement. Si vous regardez bien, je ne sais pas si c'est très visible, vous avez des séquences de récits qui sont plus ou moins longues. Et la durée de ces séquences de récits ne correspond pas à la durée des événements que vous décrivez. C'est-à-dire qu'on peut décrire quelque chose qui dure longtemps avec un récit court, et quelque chose qui dure moins longtemps, c'est la séquence 2 avec un récit plus long. Et entre chaque événement, il y a des ellipses, forcément. Bon, mais vous pouvez en fait faire plein d'autres choses sur d'autres principes un peu plus originaux. Oui.
Et du coup, si on écrit une nouvelle, ça peut se passer sur un temps très très court, et du coup, il peut y avoir...
une nouvelle qui se déroule sur 2 heures consécutives. C'est assez rare.
Mais je veux dire, une nouvelle qui pourrait avoir un temps suffisamment court pour qu'il n'y ait pas
d'ellipse.
Oui. Et que tout se passe.
Peut-être, mais il y a peut-être quand même des moments de silence que vous raconterez plus brièvement que des moments au cours desquels on parle. Cette idée d'ellipse, elle est toujours présente. C'est...
Et puis c'est pas l'ellipse, c'est du résumé.
Oui.
C'est, on peut accélérer ou ralentir.
Voilà, on a besoin d'accélérer ou de ralentir. On n'est pas en phase avec le temps des événements, ça c'est une évidence. Mais bon, on peut quand même faire des choses un peu plus rigolotes. Donc j'ai essayé de passer en vue les types de choses qu'on pouvait faire. Alors, il y a le célèbre et classique principe que l'on peut d'ailleurs aussi utiliser au cinéma, du flashback, où à un moment donné dans le récit, vous avez besoin de raconter quelque chose qui s'est passé dans un temps antérieur. Vous êtes en train de raconter quelque chose, mais vous avez besoin à un moment donné d'insérer le récit de quelque chose qui s'est passé bien avant, beaucoup plus tôt, éventuellement beaucoup plus tôt. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez même le faire plusieurs fois. La question qui va se poser, évidemment, est de savoir comment identifier cette partie du récit, comment identifier clairement l'époque à laquelle elle se passe et comment elle se raccroche au reste. Bon, là on est encore dans du classique, on a de l'un peu plus atypique. On a ce qu'on peut appeler le flash-forward, sur le même principe que le flashback, mais vers l'avant, où à un moment donné, vous allez raconter quelque chose qui se passe beaucoup plus tard. Alors, j'ai mis ici quelque chose qui se pratique assez peu, c'est-à-dire que j'ai imaginé le fait que quelque part au milieu du récit, vous allez montrer quelque chose qui se passe longtemps après. En fait, la position la plus classique pour un flash-forward, c'est tout au début. En général, enfin, quand on a un flash-forward, il est plutôt situé en prologue. Et tout le récit vise finalement à vous expliquer comment on en est arrivé à ce prologue. Quel est l'enchaînement des événements qui ont conduit à justifier cette situation étrange que vous avez rencontrée en début de récit.
Oui. Est-ce que c'est la différence dans ce cas-là entre ce qu'est un flash-forward ? Est-ce que le premier est un flash-forward et le reste est le récit ? Ou est-ce que le premier est le point de départ et le reste sont des flashbacks ?
En général, c'est là où il y a le corps du récit qu'on considère qu'on est dans le temps du récit. C'est une question de proportion aussi et d'investissement. Si le prologue est habituellement quelque chose en quelques pages, donc il y a peu de confusion dans la pratique. La question théoriquement pourrait être posée.
C'est vrai que c'est un procédé classique dans les séries quand ils ont un épisode un peu trop court. Ils commencent par la fin, puis après ils racontent tout, puis après ils rebouclent sur ce qu'ils ont raconté.
Ça peut se faire partout, oui. Ça peut se faire dans les séries, dans le cinéma. Alors, après, comme truc bizarre, eh bien, il y a quand même, et là on n'est plus seulement dans la séquence des événements, il y a la question du point de vue qui peut commencer à rentrer en ligne de compte. Et vous avez un certain nombre de récits qui sont construits sur le principe de centrer le narrateur sur un personnage pour, par exemple, une première partie, puis de changer de point de vue et de personnage pour la suite. Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, hein, dans un certain nombre de nouvelles. Par exemple, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Un amour de sable, dans laquelle il n'y a que deux protagonistes, les humains qui vont découvrir la planète de sable, et puis Sable, qui est une créature qui se manifeste sous l'apparence physique que vous imaginez. Quand elle s'appelle Sable, c'est un gros tas de sable, mais c'est un gros tas de sable intelligent et qui n'a pas la capacité de communiquer avec un homme, parce qu'il a la capacité de communiquer avec ses congénères, mais il n'a pas de bouche, il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'yeux, il est très différent du point de vue organique de ce qu'est un être humain. Et j'ai construit un récit comme ça, en alternant le même récit, en enchaînant le point de vue des humains et le point de vue de Sable sur la situation de la rencontre qui était en train de se dérouler. Moi, j'ai utilisé un artifice dans cette nouvelle, ou pas un artifice, mais une méthode de construction qui faisait qu'en fait, il y avait un léger chevauchement entre les séquences alternant le point de vue des humains et les séquences alternant le point de vue de Sable, pour que l'on raccroche bien deux visions complémentaires de la situation qui étaient nécessairement très très différentes. C'est même pas un souvenir, c'est on reprend le récit de l'autre point de vue un tout petit peu avant le moment où ça se terminait chez le premier. Il y a moins d'ellipses. Il y a quand même des tas de choses qu'on ne raconte pas sur leur quotidien parce que ce serait très, très ennuyeux, ça c'est ça de continuer.
Mais parfois le changement de point de vue, c'est parce qu'on change de scène, donc il y a des ellipses. Et là, en fin de compte, tu fais rapport.
Oui, mais il y a toujours des ellipses, on ne peut pas faire autrement, c'est normal. Oui, tout à fait. Et d'éviter qu'il y ait des passages ennuyeux. Et puis il y a des trucs encore plus originaux que ça. Maintenant qu'on a commencé à regarder la notion de point de vue, voilà, on peut avoir des trucs comme ça. C'est-à-dire que j'ai en tête au moins une histoire de Robert Sheckley qui s'appelle Le pas de Troie du chef, du garçon et du client, qui a été publié dans une anthologie qui s'appelle Le temps meurtrier. Chacune des trois séquences commence par « Cher Dieu » et est un témoignage sur une situation qu'ont vécu trois protagonistes. Donc, en deux mots, vous avez un chef cuisinier, un garçon et un client. La séquence se passe dans un restaurant. Le point de vue du chef sur la situation, c'est qu'il va rendre le client dépendant de sa cuisine en lui servant avec une jouissance perverse les plats que le client aime le plus, il va le rendre complètement accro à sa cuisine. Jusqu'à ce que le client, d'ailleurs, mette en péril sa santé, devienne complètement obèse et soit complètement accro à ce qu'on lui sert dans le restaurant. Donc, en fait, le chef, en racontant son histoire, exprime un mélange de jouissance et de perversité vis-à-vis de toute la manière dont il a manipulé son client. Et puis ensuite, vous avez exactement le même récit, mais cette fois-ci, vu par le garçon. Le garçon, lui, pour lui, la même situation où le client est de plus en plus assidu, mange de plus en plus, jusqu'à devenir, se mettre dans un état de santé assez catastrophique. Pour le garçon, il le rend accro avec le jazz qu'il lui passe. Et c'est le client est accro à sa musique. Et le client est obligé de manger la cuisine du chef pour découvrir l'extraordinaire programmation musicale que le garçon lui met en place et tous les jazzmen qu'il lui fait découvrir. Et il est donc responsable de cette situation qui conduit à la dégradation du client. Et puis le troisième point de vue, c'est le client. Et le client est amoureux du garçon. Et c'est parce qu'il a envie il veut voir régulièrement le garçon, il essaie de le séduire, il essaie d'établir des relations avec lui, qu'il se tape l'infâme cuisine du cuisinier et cette musique qui finalement l'intéresse pas tant que ça. La nouvelle de Robert Sheckley est uniquement construite sur la même séquence vue par les trois protagonistes sur des principes complètement différents. Il n'y a pas de suite. On pourrait éventuellement imaginer qu'il y ait une suite avec une séquence 2 reprise sur le même principe. Donc, changement de point de vue avec reprise de la même séquence. Et là-dedans, il y a des trucs qui ne font pas partie du fil des événements qu'il est assez compliqué de caser. Par exemple, on a envie souvent de fournir des explications. On a envie de les caser parce qu'on pense que c'est nécessaire à la compréhension de l'histoire, de son contexte, de la situation décrite. Et c'est très très délicat de le faire. Parce que, d'abord, il faut vous demander qui va les exprimer. Alors, une des solutions couramment adoptées consiste à avoir des personnages qui s'expliquent la situation les uns aux autres, qui s'expliquent le monde dans lequel ils vivent, qui s'expliquent comment ça marche. C'est pas très facile à faire admettre pour le lecteur, et c'est pas forcément très fluide du point de vue des explications. Vous pouvez même essayer de faire ça avec quelqu'un tout seul qui pense à l'état du monde, qui se met en forme dans un monologue intérieur tout ce qu'il a comme bilan à faire à propos de la manière dont les choses marchent et fonctionnent. Bon, en tant qu'ontologiste, si ce n'est en tant qu'auteur, j'ai tendance à dire que il est probable que vous pourrez vous en passer. Qu'il va peut-être falloir sacrifier au moins les séquences longues et éventuellement surtout les séquences introductives que vous aurez bâties sur ce principe. Parce que une nouvelle nécessite que l'on rentre au cœur du sujet sans qu'on vous explique tout ce qui, la manière et les raisons pour lesquelles les choses sont construites. La situation se présente de telle ou telle manière. Alors, donc on en revient sur la question du narrateur. Voilà, si vous situez toutes ces explications au début de l'histoire, ce qu'on a souvent envie de faire, on se dit, il faut que le lecteur comprenne dans quel monde on est en train de raconter l'histoire, comment il fonctionne, quelle est, je sais pas, l'organisation sociale, politique dont il est question. Mais si vous vous mettez à raconter ça de but en blanc, voilà, dans cette société, nous avons un régime politique de tel type, les gens travaillent ensemble sur tel principe, eh bien, ça veut dire que vous avez commencé à faire parler un narrateur omniscient, probablement. Un narrateur omniscient, c'est-à-dire celui qui sait tout sur tout et qui passe son temps à vous donner des leçons. Et donc, j'ai écrit ici ce qui me paraît le résumé de la chose. Il devient vite énervant, comme tous les profs. Je suis désolée, je suis prof, j'espère que ça se voit pas trop. Et surtout, une fois qu'on lui a confié les rênes du récit et que c'est lui qui a pris les choses en main, il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Il a tendance à être là tout le temps et à prendre en main l'histoire et à raconter tout ce qui se passe avec son point de vue de narrateur omniscient qui sait tout sur tout. Et voilà, c'est peut-être pas la manière la plus efficace de faire ressentir des choses à vos lecteurs. Et puis, ces explications, elles peuvent aussi ouvrir un autre écueil, c'est qu'elles peuvent vous sembler nécessaires pour fournir un espèce de résumé de ce qui se passe autour. Ces explications, ça peut être ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, ce qui se passe autour. Et si vous abusez du procédé, il y a un risque, c'est qu'on a l'impression que si vous aviez été un peu plus courageux et un peu moins feignant, vous auriez écrit un roman. Mais vous n'avez écrit une nouvelle que parce que vous êtes un feignant et que tout ce que vous aviez besoin de dire autour, eh bien vous l'expliquez en une demi-page et vous réglez le problème comme ça. Mais votre histoire, on aurait eu besoin pour qu'elle devienne, pour qu'elle ait du sens et de la chair. Donc voilà. C'est un procédé assez périlleux. Et puis, il y a une autre question. Là, on n'est plus sur les explications, on est sur les descriptions, et c'est un petit peu différent. Les descriptions, vous ne pouvez pas y réfléchir sans vous demander comment vous allez positionner votre narrateur. Un narrateur omniscient, il sait tout sur tout, donc il peut tout décrire, le monde entier, sous n'importe quel angle. Après, il choisira de quoi il a envie de vous parler. Mais je vous ai dit, il survole votre histoire. Il est dans un Boeing 747. Il voit tout de haut. Il a une vision sur tout. Et ça devient, du coup, ça risque de devenir un petit peu abstrait. Donc, vous pouvez choisir d'avoir des descriptions avec un narrateur aligné. Un narrateur aligné sur un personnage. À ce moment-là, la conséquence, c'est que votre narrateur ne peut pas raconter n'importe quoi. Il ne peut décrire que ce que voit le personnage, ce qui est autour de lui, ce qui se passe autour de lui. C'est une énorme contrainte hein, pour l'histoire. Si vous avez besoin de raconter des choses qui ne sont plus dans la sphère d'observation de votre personnage, eh bien, vous serez obligé de changer de point de vue, de changer de narrateur, ce qui peut être une transition délicate. Et voilà, on en revient au narrateur à la première personne, donc j'étais
content. Justement, si on change de point de vue, on ne change pas forcément de narrateur. Si on a un narrateur, omniscient,
oui.
il peut décider de s'aligner tantôt sur un personnage, tantôt sur l'autre, parce que non, tu disais qu'il a, il a un avion, il regarde le sol, mais non, il peut monter et descendre,
oui, créer des besoins. Pour moi, j'appelle plutôt ça un changement de point de vue avec un changement de narrateur aligné. Le narrateur omniscient, il est partout, en tout temps et à tout moment. Alors que le narrateur aligné, il peut changer d'alignement et de personnage sur lequel il s'aligne, mais il a un champ de vision plus restreint. Enfin bon.
Elisabeth Bonnard-Bourg parle justement du narrateur omniscient quand il est bavard ou quand il est.
Elle parle aussi du narrateur aveugle qui n'essaie pas d'interpréter, qui ne comprend rien, qui vous raconte juste ce qu'il voit. Il faudra que vous le lisiez, j'ai mis la référence à la fin.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont déjà essayé de faire deux narrateurs omniscients qui se battent
avec? Ah, je n'ai pas d'exemple en tête, c'est une question intéressante. Mais l'omniscient, c'est censé être universel. Donc je ne suis pas sûre qu'on pourrait avoir deux types d'omniscience qui fonctionnent sur des régimes différents.
Des déités sont par définition omniscientes. On peut imaginer un combat de déités.
Je pense qu'il faudrait que l'une des omnisciences soit carrément extraterrestre. Ce qui est un défi tout à fait intéressant.
Elle voit son point de vue et narrateur.
Je l'ai volontairement confondu pour simplifier un peu et pour essayer de recentrer sur la question de la temporalité. Donc j'en fais toutes mes excuses à François et à Elisabeth Bonnard-Bourg. Je vous fournis une version simplifiée de la question du point de vue et de la narrative. Donc voilà, parmi les difficultés que vous avez si vous travaillez avec un narrateur aligné sur un personnage, une des difficultés que vous allez rencontrer, c'est comment faire prendre au lecteur conscience de qui parle. Comment, par exemple, allez-vous introduire une description physique de la personne qui parle? J'ai fait des expériences de toutes sortes autour de cette question. J'ai, par exemple, écrit une nouvelle qui s'appelle « Tambu et Patchouli », dans laquelle le narrateur, tant pis, je vous dis quelle est la clé du défi que j'ai essayé de faire. Je spoil absolument, c'est une nouvelle très courte. C'est pas très grave. Dans cette nouvelle, mon narrateur est aveugle. Mon narrateur ne perçoit les événements qui vont se dérouler que par le récit que lui en font les gens qui sont autour de lui. Mais quand il pense à lui-même, il ne se dit pas, en gros, tout de suite, dès la première phrase, je suis aveugle. Il ne se dit jamais ça. Ça fait partie de son identité. Je ne sais pas comment. Chacun se raconte sa propre identité et en quels termes et avec quels mots, mais un ressenti intime pour ma part. J'étais convaincue que mon narrateur ne pensait pas à lui-même en se disant tout de suite « je suis aveugle ». Il parlait de son rapport au monde, il parlait des indices qu'il avait pour comprendre ce qui se passait autour de lui, il parlait de la manière dont les événements lui étaient transmis, du sens que ça avait pour lui. Mais il est dans mon histoire, le personnage ne dit jamais qu'il est aveugle. Certains lecteurs, d'après mes statistiques personnelles, à peu près la moitié des lecteurs, a compris que le lecteur était aveugle par un certain nombre d'indices qui étaient disséminés au fil du texte, mais qui étaient des indices en négatif, et pas des indices qui disaient « il me manque un sens ». Pour quelqu'un qui est, me semble, aveugle de naissance, on ne perçoit pas cette différence comme un manque, puisqu'on l'a toujours, on a toujours été bâti sur ce principe. C'est quelque chose que l'on vit à travers d'autres sens et d'autres modalités et sur d'autres principes. Donc, voilà, c'est peut-être une... Mais de toute manière, la question de comment présenter votre personnage se posera toujours si vous alignez votre narrateur de manière proche sur quelqu'un. Il peut se regarder dans la glace, hein. C'est une astuce courante, mais il y a d'autres modèles aussi.
J'y pense.
Oui, non, mais il y a quelqu'un derrière, ah, je vous appelle.
C'est des compagnies sur un personnage, et qui doivent décrire son environnement. Donc aussi, c'est des tout simplement du caractère du personnage.
Tout à fait, ça va jouer sur les descriptions, c'est ce que je vais mettre juste après.
Il faut vraiment bien connaître ce personnage et comment il réagit au monde.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est le prochain transparent. Oui.
Sur le truc des sens, c'est un homme psy qui s'appelle Oliver Zaks qui a écrit sur
oui.
Il a un des cas qu'il a décrit, c'est une personne à qui on va redonner le sens de la vue. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il raconte que la vue, c'est le seul sens qui n'est pas temporel. En fait, une image, on la prend en entier d'un coup, et lui, il n'arrive pas du tout parce que son habitude d'aveugle, c'est on fait des pas. Donc la distance est temporelle, les sons c'est les uns après les autres successifs, le toucher c'est pareil.
Ah oui, oui, c'est intéressant.
Donc comment est-ce qu'on décrit une image? Dans le récit, on va être obligé à un moment donné de linéariser un truc qui est la vision, qui est quelque chose qu'on se prend avec ou quoi. Alors, il y a quelque chose de pas facile là-dedans aussi.
Oui, donc c'est purement sur la question temporelle.
Mais c'est déjà le fond de l'enquête de linéariser.
Oui.
Mais aussi du coup, le personnage, plutôt que de se décrire lui-même, il peut très bien dire ce que les autres personnages pensent de lui. Donc comme ça, il donne une description lui-même à travers le regard des autres personnages.
Oui, encore faut-il que les autres personnages lui disent clairement ce qu'ils pensent de lui. Parce que s'il s'agit d'aller chercher ce que les autres ont dans la tête, on a un narrateur qui commence à être moins aligné.
Peut-être pas... en décrivant les rapports qu'il a avec les autres personnages.
Alors, oui. On peut effectivement s'appuyer sur une multitude d'indices. Il faut bien être conscient qu'à chaque fois qu'on met en place des indices, on ne sait pas comment ils seront décodés. Il faut renoncer à avoir la maîtrise là-dessus. Ils seront probablement décodés de manière très diverse. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, je considère comme auteur que je n'ai pas à avoir le contrôle absolu sur ce que lit le lecteur. Je trouve très bien que chaque lecture puisse être différente. Et puisse se construire selon les modalités d'analyse de chacun. Voilà, on peut se poser la question, même si elle a l'air triviale, de à quoi servent les descriptions. À mon avis, elles ont un rôle tout à fait essentiel, et on parlait de l'aspect visuel, pas uniquement lorsqu'il s'agit d'aider le lecteur à visualiser la scène, pas uniquement pour l'aider à faire une sorte de transition qui consisterait à voir la nouvelle comme si c'était un film. À mon avis, la description a un rôle beaucoup plus fondamental et beaucoup plus important. En tout cas, moi, j'essaie de l'utiliser comme ça. C'est par les descriptions que, peut-être de manière un peu paradoxale, passe l'essentiel des émotions qui sont ressenties par le narrateur. Si on n'a pas envie d'écrire, alors je vais dire des horreurs, ça ne sortira pas d'ici, j'espère qu'on n'est pas enregistré. Si vous lisez des auteurs considérés comme, les best-sellers, si vous lisez Guillaume Musso, Marc Lévy, il y a un certain confort de lecture à les lire, au sens où on vous dira à chaque moment quelle est l'émotion qui est exprimée. Les sourires, ils sont gentils, cruels, méchants, sardoniques, mais toutes les clés d'interprétation vous sont données à chaque étape. Le travail de décodage des lecteurs en est énormément simplifié. Moi, personnellement, je ne supporte pas qu'on me dise comment je dois comprendre à chaque étape les réactions, les interprétations, le ressenti et les émotions de tous les acteurs du spectacle que je construis.
Donc, en gros, vous lancez un peu un jeu au lecteur, c'est-à-dire de deviner ce que...
Je lui fournis des trucs et il en fait ce qu'il veut. Mais j'essaie de lui donner un matériau aussi riche que possible, quand même, pour qu'il ait de quoi faire. Et avec les descriptions, on peut faire passer énormément de choses. Et à mon avis, on les fait passer d'une manière plus intéressante que en disant de but en blanc si les gens sont gentils, méchants, perfides, calculateurs ou généreux. Vous faites passer des choses plus riches et plus subtiles. Et à mon avis, à chaque fois que le lecteur est impliqué dans la construction du sens, il a fait un investissement qui fait que le lecteur lui parle plus, que le texte lui parle plus, pardon, que son rapport au texte devient quelque chose d'intime, personnel et de réellement significatif. Je vais reparler de moi en tant qu'auteur. Je ne suis jamais aussi heureuse que quand un lecteur vient me voir pour me raconter comment il a lu mon texte, comment il l'a compris et pourquoi mes personnages ont réagi comme ci et comme ça. J'adore ça, c'est complètement extraordinaire. Et il y a tellement de manières de s'approprier un récit. C'est ça qui en fait la richesse. Donc, est-ce que j'ai parlé de tout ce qui était là-dessus, voilà. Des descriptions de personnes, mais aussi de paysages, expriment des ambiances, expriment du rapport au monde, du ressenti, de l'émotion. Et c'est indispensable, c'est très précieux. Si vous avez une histoire qui n'est construite que par du dialogue, vous vous privez d'une dimension qui est une dimension riche et importante. Alors voilà, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce que je voulais vous raconter. Oula, j'allais vite. La narration. Comment vous allez raconter l'histoire? La forme de narration la plus classique consiste à écrire au passé. Quand on écrit au passé, en général, on écrit en alternant, c'est sur mon transparent d'après, le passé simple et l'imparfait. Ce sont les temps classiques du récit qui consistent à... Votre narrateur, il est maintenant, il vous raconte quelque chose qui s'est passé auparavant. C'est classique, c'est confortable, vous y retournerez tout naturellement dans l'écriture, parce que la plupart des textes classiques que vous aurez lus auront été bâtis sur ce principe. Maintenant, ça peut s'avérer un petit peu délicat à manipuler, on va passer en vue quelques exemples. Voilà, le passé simple et l'imparfait, il faut déjà bien... maîtriser la manière dont on alterne et dont on passe de l'un à l'autre. En fait, dans tout ce que je vais vous dire, il y a une idée, un fil conducteur, c'est que il y a quelques grosses bourdes qu'il ne faut pas commettre, mais que tout le reste, c'est un ensemble de nuances et une palette dont on peut jouer de plein de manières différentes. Il y a juste quelques grosses bourdes à éviter. En gros, quand vous avez un récit au passé, le passé simple vous permet de marquer tout ce qui est bref dans le temps, tout ce qui relève de l'instantané, alors que l'imparfait, c'est l'intemporel, ou c'est le durable, ou c'est le permanent, c'est des choses beaucoup plus stables. Et du coup, pour démolir au fur et à mesure ce que j'explique, j'ai été prendre des exemples. Alors, j'ai pris des exemples là pour celui sur lequel je vais m'appuyer, j'ai été les chercher dans les 6 volumes français de la grande anthologie du livre de poche, parce que c'était quand même plus intéressant de travailler sur des auteurs français que sur des auteurs traduits, même si le travail du traducteur est aussi un travail d'écriture, j'ai préféré prendre des auteurs francophones natifs. Voilà, Jean-Jacques Guyenne. Comme Olivier avançait vers le bureau d'accueil, au centre du hall, une autre sensation l'envahit. Était-ce une odeur de noisettes fraîches? Ben, vous auriez pu écrire cette phrase suivant d'autres principes. D'ailleurs, regardez, on peut, quelquefois il faut faire de tout petits ajustements, mais ça marche aussi si on dit « Lorsque Olivier avança vers le bureau d'accueil, une autre sensation l'envahit. » C'est-à-dire que vous avez ramené sous la forme d'une séquence temporelle immédiate, restreinte, brève, fugace, le fait qu'il avance, avec l'odeur, la sensation qui l'envahit. Ça ne sonne pas tout à fait pareil, vous n'exprimez pas tout à fait la même chose que ce qu'a essayé, ce qui a été choisi par l'auteur. Vous avez une énorme palette de nuances. Je vais continuer sur les mêmes principes. D'abord, une mise en garde. Le passé simple, c'est hyper joli. Mais alors attention, déjà, je vous déconseille totalement la deuxième personne du pluriel. Parce que vous prites, vous considérates et autres verbes, vous tombez tout de suite sur des formes inusitées. Bon, ça tombe bien, on utilise rarement la deuxième personne du pluriel. Mais même avec la troisième personne du pluriel, et même quelquefois avec celle du singulier, on a des trucs qui ne sonnent pas très bien. Et qui ne sonnent pas très bien dans des circonstances où vous mettez une forme interrogative, par exemple. Essayez d'écrire un fus sous une forme interrogative, ça passe pas. Donc, voilà, quand je disais risque d'avoir un texte qui est un petit peu ampoulé, un petit peu désuet, voilà, le risque est réellement présent. Maintenant, concrètement, comment gérer tout ça? Alors, Jérôme le fixait avec une étrange lueur dans le regard, une exaltation de mauvaise aloi. C'est de moi ce que pensait Olivier qui baillait encore au Corneille ce matin-là sur le chemin du lycée, faute d'avoir dormi suffisamment. Donc là, vous avez un aparté, le fixer. Ce que pensait Olivier, qui aurait pu apparaître sous la forme d'un poste, c'est simple, ce que pensa Olivier à ce moment-là, et vous aviez quelque chose de moins impermanent, vous exprimez une petite différence dans la relation de cas Olivier avec la sensation qu'il éprouve à ce moment-là. Et puis vous avez un avoir dormi. Quel en serait le prix? Curieusement, il ne ressentait aucune envie de mettre fin à ses jours, pas plus que de se livrer à quelques pitreries qui auraient trahi. Alors, si on regarde, je ne suis pas une grammairienne ou une linguiste, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez, d'une part, quel en serait le prix qui exprime un futur? Si vous aviez écrit le texte au présent, vous auriez dit quel en sera le prix. Comment exprime-t-on le futur du passé? Eh bien, je vous avoue que quand j'ai préparé cette intervention, ça m'a fait un choc parce que j'y avais jamais réfléchi. Le futur du passé s'exprime avec un conditionnel. On y reviendra, c'est très déroutant de réfléchir à ça. Et qui aurait trahi, ben vous avez un conditionnel passé pour un temps passé qui ici est bien effectivement hypothétique parce qu'on n'est pas sûr qu'il aurait eu envie de se livrer avec lui. Bon, tout cela est assez déroutant. Le futur du passé s'écrit avec un conditionnel. Ben, je vous ai repris un petit exemple tout simple avec l'aide de quelques copains que j'ai fait plancher sur le sujet quand j'ai découvert à quel point il était surprenant. Il alla travailler puis se rendit à la cantine. Le lendemain, il ferait la même chose. Ça marche? On a un futur dans le passé qui est exprimé avec un conditionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Entre parenthèses, un conditionnel, c'est quelque chose qui est habituellement soumis à une condition. Le futur du passé, eh ben, soit il est aussi dans le passé par rapport au présent et la position du narrateur, et à ce moment-là, normalement, il est connu, donc c'est quand même curieux d'utiliser un conditionnel pour un truc qu'on est censé connaître. Ou alors, le futur du passé nous a doublé et il est dans le futur, et à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser un futur? Ce qu'on ne fait pas. Vous ne pouvez pas dire un futur, là. Le lendemain, il fera la même chose, ça ne va pas avec le début. Mais par contre, vous pouvez dire, il alla travailler puis se rendit à la cantine, le lendemain, il fit la même chose. Là, vous avez clairement exprimé le fait que le futur du passé est dans le passé. Et vous avez changé la position du narrateur, sa temporalité.
Quand on utilise la forme en règle, le conditionnel dans le passé pour utiliser le futur, on veille du coup à passer le narrateur dans le point de vue du personnage. Ça donne l'impression qu'on
est dans
le personnage. Donc, sinon, on maintient la distance du narrateur qui
raconte. Maintenant, si vous regardez à tout ce qui est implicite, tout ce que l'on peut ressentir à partir de ces deux formes, eh bien, il y a des tas d'autres choses qu'on peut supputer, imaginer, qui ne seront pas ressenties pareilles par tel ou tel lecteur. Il me semble, en tout cas c'est une hypothèse qui a été faite par un de mes copains et je la trouve valide, que quand on dit le lendemain, il ferait la même chose, il y a l'ébauche d'une structure itérative qui va se répéter. Tous les jours, il fera la même chose, peut-être. On a une espèce de schéma ici qui montre voilà, une espèce de permanence de l'action. Que vous n'avez pas dans le lendemain, il fait la même chose. On est dans du passé qui s'est déroulé une fois, on peut le raconter, on fait le point dessus, mais c'est fini. C'est une hypothèse.
En fait, c'est le problème, parce quand il n'y a pas d'itération possible. Si c'est tous les jours suivants, il ferait la même chose. Là, on a l'itération, donc on parle, mais sinon, ça peut être juste le narrateur qui fait.
Là, dans mon exemple, on peut pas, c'est indécidable.
Non, il n'y a pas d'adverbe.
Dans mon interprétation, dans le lendemain, il fera la même chose. En fait, il pense qu'il va faire la même chose, mais il n'y a pas de certitude qu'il l'a effectivement fait.
Oui, alors que,
il fit la même chose.
Le futur du passé qui est dans le futur est incertain, alors que le futur du passé qui est dans le passé.
Il peut quand même être dans le passé.
C'est pour ça qu'on emploie le conditionnel.
Oui, voilà, c'est un paradoxe. Mais il y a un paradoxe. Parce que s'il est dans le passé, on met un conditionnel. Normalement, on sait qu'il l'a fait.
Le narrateur propose, oui, c'est le narrateur dans le présent, et puis écrit le lendemain, il fera.
On est embêté comme ça.
On y vient. Je termine juste avec le passé, et après je passe au présent. Alors, le passé du passé. habituellement, le passé datant qui est construit sur... Vous avez besoin de l'alternance passé simple, imparfait, si vous êtes dans le passé. Les deux sont nécessaires. Mais si vous avez besoin de, passer de parler de quelque chose qui se situe avant, vous allez logiquement utiliser le plus que parfait. On a l'exemple ici. Olivier n'avait plus approché de Noistier depuis son enfance quand il passait ses vacances dans la ferme de ses grands-parents en Savoie. Vous avez un plus que passé qui parle de son enfance et qui se situe dans un cadre antérieur. Le passé composé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien ici. Je ne dis pas que c'est complètement impossible. Si je vous mettais au défi d'en trouver, vous en trouveriez plein. Mais souvent, ils sont rattachés à des situations où on a du dialogue ou du dialogue rapporté ou quelque chose qui est un peu à cheval entre le présent du dialogue, le moment où il est en train de s'exprimer, et le temps du récit qui lui est décalé. Donc voilà. Les subjonctifs. Les subjonctifs présents, ça va, on sait à peu près faire, encore que tout le monde ne maîtrise pas totalement bien. Le subjonctif passé n'est pas plus compliqué que le subjonctif présent. Quant au subjonctif imparfait et plus que parfait, on entre quand même dans des temps assez peu usités, très littéraires, encore plus datés probablement que le passé simple, et qui, à certaines personnes, sont totalement ingérables. Et certains auteurs ont fait preuve de virtuosité, on ne peut pas parler d'imparfait du subjonctif sans penser à Yardal. Certains auteurs ont très bien manipulé ce type de temps. C'est quand même très délicat comme exercice. D'autre part, il faut quand même une certaine maîtrise technique. Par exemple, la confusion imparfait passé simple est quand même extrêmement fréquente, au moins du point de vue orthographique, ce qui complique la lecture du malheureux entomologiste. Et la confusion future conditionnelle est quand même très fréquente aussi. Voilà, donc vous pouvez passer le test qui consiste à écrire le même verbe à une autre personne, ça peut aider. Mais face à toutes ces difficultés techniques, il y a une solution qui est intéressante, c'est d'écrire au présent. Écrire au présent, eh bien, ça a des avantages. Par exemple, si vous écrivez au présent, vous synchronisez le récit avec le temps des événements. Votre narrateur est dans le temps des événements. Il vous raconte les choses au moment où elles se passent. On est tout à fait en accord avec un des grands dogmes à propos de la narration, de la nouvelle en particulier, qui consiste à dire « show, don't tell ». C'est-à-dire, ne racontez pas une histoire, montrez-la. Donnez-la à vivre. Ne prenez pas de la distance par rapport à votre histoire. Ne faites pas un récit des événements qu'il y a dans votre histoire. Faites vivre votre histoire et montrez-la. C'est pas la même démarche. Donc, pour être en prise avec les événements et ne pas prendre de recul et immerger le lecteur dans le fil des événements, ben le temps du présent est idéal. C'est un peu plus facile. Mais, en fait, on ne peut pas écrire tout au présent. Alors, là, j'ai pris un exemple d'une nouvelle de Jean-Claude Dugnac, et j'ai pris le début de la nouvelle. Je n'ai pas triché, hein, je ne vous ai mis que des nouvelles. J'ai avalé l'appât, l'hameçon et la ligne, et puis en remontant le fil, j'ai dévoré le pêcheur. C'est la fin qui nous sauve, disait Akers. Mais ils confondent gourmandise et appétit. Moi, je suis capable d'engloutir le monde, et je commence à en avoir envie. On est dans un récit qui est au présent, complètement au présent. Mais ce récit, en fait, on a toujours besoin de deux temps pour construire un récit et bâtir l'alternance entre ce qui est vraiment dans le moment et ce qui se situe antérieurement. Donc ici, l'alternance, elle va se bâtir sur l'usage du présent et du passé composé. Et ça, c'est une alternance qui fonctionne très bien. Et ce sont deux temps qui sont d'un usage courant, facile à utiliser. Ça vous simplifie la question des futurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Si on écrit au présent, ben on peut écrire le futur au futur, c'est quand même sympa. Et le subjonctif, eh bien, vous pouvez l'écrire au présent et au passé, qui restent des temps usuels. Mais voilà, rien ne vous oblige finalement à faire la même chose pendant toute la durée de la nouvelle. Et vous pouvez avoir envie d'alterner des séquences où le narrateur est dans le présent et des séquences où le narrateur est plus distancié et où, pour lui, le fil des événements est dans le passé. Mais... il faut, quand vous voulez déplacer votre narrateur, déjà il faut que vous soyez conscient du fait que vous déplacez, et il faut que vous choisissiez le moment. où vous décidez de le faire. Et en général, il faut mieux qu'il y ait une raison. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va passer du présent au passé ou le contraire? Et je vous ai mis aussi un piège dans lequel j'ai tendance à tomber très régulièrement. Moi, j'aime bien écrire au présent. C'est que on a tellement l'habitude d'avoir, on a vu tellement de récits au passé qu'il y a certains verbes qui se conjuguent de la même façon au présent et au passé simple, qui fonctionnent comme des aspirateurs et qui vous font glisser quelquefois au cours d'une phrase ou d'un paragraphe, si vous ne faites pas très attention, qui vous font glisser vers le passé sans que vous l'ayez fait exprès. Voilà, dit-il, c'est un piège abominable, il y en a quelques autres. Voilà, et puis après, on peut se dire, on est en train de parler de l'écriture de nouvelles de science-fiction. Beaucoup de nouvelles de science-fiction se situent dans le futur. Bah, après tout, pour raconter des événements futurs, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas au futur? Je n'ai eu qu'une fois l'occasion de lire une nouvelle écrite sur ce principe. Et ça provoque un effet tout à fait curieux que je vous encourage à essayer, parce qu'il est tout à fait intéressant. Et provoque des effets très inattendus. Parce que, en fait, le lecteur n'aura pas beaucoup d'éléments pour décoder la position du narrateur, justement, que vous aurez adopté. Voilà, peut-être que votre narrateur est en train de... C'est une pitié. Il vous décrit les choses qui vont arriver. Il connaît l'avenir et il le déroule devant vous. Êtes-vous prêt à accepter le fait que quelqu'un explique le futur devant vous? Quel statut lui donnez-vous? Est-ce que c'est un voyageur du temps? Ça, c'est une approche science-fictive qu'il faudrait que le récit justifie. Mais si c'est un prophète, voilà, derrière, le sentiment de malaise qu'on peut éprouver, je pense qu'il est lié au fait que, du coup, le futur vous est présenté comme déjà écrit, donc inexorable, donc il n'y a plus de libre arbitre. Donc, voilà, tout est gravé dans le grand livre, et il se passera ci, et il se passera ça. Et vous avez un peu l'impression de lire un texte sacré, quelque chose qui a un statut hybride un petit peu délicat. Il est intéressant de faire des expériences de toutes sortes, et en particulier, on peut le faire en écrivant des short-shorts, c'est-à-dire des textes très courts. C'est intéressant de voir l'énorme palette dont on dispose pour jouer avec quand on écrit un texte. Il me reste 3 minutes, mais ça devrait tenir.
Il n'y a rien entré dans la salle.
Ah d'accord, mais il y a le discours. C'est super. Bon, si vous n'entendrez pas, si vous avez envie d'écouter les discours et que vous voulez sortir à n'importe quel moment, je ne prends pas les noms. Alors, en fait, quand on écrit, on se pose rarement toutes ces questions-là. Et on peut essayer de. La plupart du temps, on a envie de jouer l'oreille. Mais attention, alors, tout le monde n'a pas la même oreille. J'aime bien la question de. Le parallèle qu'on fait avec la musique quand on parle de jouer d'oreille, parce que on n'a pas tous les mêmes aptitudes dans notre rapport à la musique. Il y a des gens qui ont la chance de naître avec l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'ils entendent un truc, ils entendent un son, ils sont capables de vous dire si c'est un la ou un ré. Moi, j'ai fait du piano, mais ça me fascine, j'ai pas cette capacité-là du tout. Si vous me dites que vous avez joué un do et que vous jouez une note après, je peux vous dire si c'est un fa ou un la. Mais si vous me jouez une note sans point de repère, je suis incapable de vous dire ce que c'est comme note. Les gens qui ont l'oreille absolue savent à quel niveau ça se situe. Nous n'avons pas tous l'oreille absolue, qui n'est pas quelque chose qui se travaille a priori. Par contre, qu'on ait ou pas l'oreille absolue, on peut toujours travailler son oreille. Travailler son oreille, ça consiste à écouter de la musique, à interpréter, à travailler sur la musique. Le texte, je pense que c'est pareil. Il y a une partie de votre oreille qui est probablement native, mais il y a aussi toute une partie qui se travaille. Et la partie qui se travaille, elle se travaille essentiellement en lisant. Donc, la meilleure manière d'apprendre à écrire, c'est d'abord de lire beaucoup. Et puis, il y a aussi une dimension technique qui se travaille. Premier étage, c'est la conjugaison. C'est vrai qu'il est utile de savoir conjuguer à tous les temps et à tous les modes. Et en particulier, ce que je vous disais tout à l'heure, de différencier un futur d'un conditionnel ou un imparfait, c'est simple. Après, il y a les accords des temps qui imposent aussi un certain nombre de contraintes. Au-delà de ça, une fois que vous avez maîtrisé ça, ben vous faites tout ce que vous voulez et il y a énormément de manières de travailler avec cette palette. Comme avec les règles de l'harmonie, vous pouvez écrire de la musique classique, du flamenco, du rap, du rodé, ou je ne sais quoi d'autre.
Juste pour pousser cette histoire de vibe, moi je trouve que j'ai une pratique d'écriture collective et donc on lit les textes à voix haute parce qu'on se les lit.
Ah oui.
Et ça met en jeu l'oreille très différemment que de simplement beaucoup lire.
Tout à fait. Pour voir si un texte est juste, le lire à l'oreille, c'est vraiment une excellente pratique et qui dit beaucoup de choses. Mais qui, à moins que vous n'ayez une prononciation parfaite, ne permet pas de différencier un futur d'apprentissionnel ou d'autres questions de ce type-là.
Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément à se lire bien. Et c'est pas toujours évident de se dire soi-même, et puis bah, de lire un autre, oui. C'est pas non plus évident. Donc, c'est vrai que
ne
c'est
m'en
pas...
parle pas, François, je fais travailler un petit peu mes étudiants sur les techniques de rédaction. La plus grande difficulté qu'ils ont, c'est faire l'effort de se relire eux-mêmes. Ils n'arrivent pas. Ça les insupporte, ça les met mal à l'aise, ça les rend malheureux, je sais pas.
Non, mais je pense même pas en termes d'élèves, je pensais un peu comme vous, on fait des ateliers d'écriture depuis longtemps. Au sein du club de raison d'esprit, et la pratique, c'est qu'effectivement, une fois que chacun a écrit son texte, on le lit à voix haute pour les autres. Et il y en a qui sont presque incapables, ils en bégayent, oui. Ils n'arrivent pas à se relire. Quoi.
Ah.
Alors, une solution qu'on a adoptée avec le temps, c'est qu'on les met sur une clé USB et tout le monde a les textes de chacun. Ce qui fait que la personne lit son texte, on l'entend à l'oreille, et on peut suivre aussi. Et là, on se le fait lire par quelqu'un d'autre, c'est une autre technique. Mais ça suppose d'avoir écrit ordinateur, parce que parfois c'est difficile de déchiffrer le manuscrit de quelqu'un d'autre.
Et après, le prolongement pour moi de la relecture, c'est la réécriture. C'est rentrer dans des pratiques où on se pousse à réécrire et à réécrire et à réécrire, mais ça ne va pas rester sur un premier jet.
Alors, s'il y a un conseil que je vous donne, effectivement, c'est celui-là, c'est d'écrire un récit que vous avez envie d'écrire en faisant toutes sortes d'expérimentations, changer de point de vue, changer de temporalité du narrateur. Moi, quand je commence une nouvelle, une fois sur deux, je fais, je sais pas, trois tentatives. Une fois, je l'écris au présent pour voir ce que ça donne. Une fois, je l'écris au passé. Une fois, je l'écris à la première personne du singulier, et une fois, je suis sur un narrateur aligné un petit peu plus distancié, où mon personnage et j'en parle à la troisième personne. Et puis, voilà, varier et les effets qu'on produit sont très différents. Je vous propose aussi de faire un exercice, on n'aura pas le temps, j'avais prévu trop de choses. Mais je vous aurais volontiers proposé de reprendre une nouvelle écrite au passé et d'essayer de voir si ça marchait en l'écrivant directement au présent. Vous pouvez le faire sur n'importe quel texte ou dans l'autre sens et vous allez voir que probablement vous aurez envie de changer des choses parce que ça... Ça ne marche pas exactement pareil quand on change la position du narrateur.
Mais moi, ce que tu disais, parce que il y a quelques années, Yardal, il me disait que justement, il réécrivait ses nouvelles au présent. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup écrit ses nouvelles au passé. Il se rendait compte maintenant que ça ne lui comptait plus et il les réécrivait au présent.
Ah ben oui, mais ça, je pense qu'on a tous envie d'être dans le présent à certains moments à cause du show don't tell, c'est-à-dire une immersion dans le temps du récit. Et en même temps, il y a un écueil aussi, c'est que vous avez un style dont on va plus facilement juger qu'il est pauvre, journalistique, neutre. Vous aurez peut-être un peu plus de difficulté à faire passer de l'affect dans un texte au présent. Mais il faut expérimenter, il faut s'amuser, il faut reprendre des paragraphes ou des textes entiers de plusieurs manières pour voir la richesse de la page. Voilà. Et moi, ma bible absolue, c'est « Comment écrire des histoires guides de l'explorateur » de Elisabeth Bonnardin, que François Manson vous recommande aussi. Et qui est vraiment extraordinaire. Alors, Elisabeth n'a pas beaucoup travaillé sur la question de la temporalité. Par contre, sur la question du point de vue et du narrateur, elle est extraordinaire. Moi, le jour où j'ai lu son guide de l'explorateur, qui en plus est extrêmement drôle, parce que les exemples sur lesquels elle s'appuie, elle a un soubassement théorique extrêmement solide, mais l'exemple sur lequel elle s'appuie tout du long, c'est une histoire qu'elle développe et qui est complètement ébouriffante et hilarante. Donc, voilà, une lecture précieuse pour toute personne qui a envie d'écrire et d'expérimenter et de se faire plaisir avec. Voilà, je crois que j'ai fini. pour les exercices, on ne va pas avoir le temps. Mais on a le temps pour quelques questions, si vous avez envie. Tout le monde a envie d'aller écouter les discours.
C'est ça. Je n'ai pas de questions, c'est juste que tout d'un coup, j'ai l'impression de voir une grande montagne devant moi. Et
mais non, mais c'est un plaisir. Il y a plein de sentiers, il y a plein de trucs intéressants à visiter. Ce n'est pas un obstacle. On n'a pas toujours conscience de l'énorme palette dont on dispose. Et c'est ça qui est intéressant quand on a ce genre de questionnement. C'est que la diversité des projets qu'on peut conduire est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine quand on est à la
réfléchir. Mais par exemple, dans mon cas, j'ai toujours des trucs de coterie.
Oui, ben on peut avoir besoin de relecteurs, d'approches collaboratives, être plusieurs à se réunir, c'est une excellente démarche. Après, tout ça, on n'est pas forcément tout seul avec son texte.
Bien sûr.
Non, justement, si on veut écrire, c'est justement plus justement de se tourner vers du travail collectif, donc on écrit à plusieurs pour s'entraider, ou alors quand même apprendre à écrire dans son coin.
Je pense qu'il faut maîtriser un minimum la technique, et qu'après il faut trouver des victimes de bonne volonté aussi professionnelles que possible. Ça sert à rien de se faire lire par sa copine, sa grand-mère ou sa tata. Il faut essayer de trouver des victimes qui savent ce que c'est que l'écriture au sens professionnel. Si on a la chance d'en avoir dans son entourage, il faut les exploiter et les remercier de toutes les critiques qu'ils vous font. Aussi. Voilà, j'avais.
Et les correcteurs peuvent aussi travailler.
Voilà, ils le font rarement bénévolement. C'est normal. Mais tout à fait, oui. On peut signer les choses.
Ça, pour revenir sur ce que tu disais au début, je pense que quand même le plus important, c'est que la nouvelle par rapport au roman et par rapport au temps, c'est qu'on n'en a pas dans le nouvel effectif. On a beaucoup moins. On est obligé de faire plus d'ellipses, plus de résumés.
Oui.
Et même pas trop de résumés, parce que sinon ça se sent.
Bah voilà, sinon on se dit, il n'a pas eu le courage d'écrire un roman.
Ça se rapproche plus de parce qu'il y a plus de scènes que de.
C'est pour ça que le parallèle, j'ai eu envie de le faire.
Et sinon, sur le temps, il n'est pas un temps. Là, on quitte un peu la nouvelle. Je crois qu'on a tout le monde la cinquième saison. Le roman de J.K. Nemesson, publié en J'ai lu millénaire. Qui est vraiment un cas d'école sur la maîtrise du point de vue et la maîtrise du temps, la temporalité de l'histoire.
Ah oui.
Je dis rien, sinon ça se troll.
Ah, c'est intéressant.
Je crois qu'il y a eu tous les coups pour ce cas. Et pour le tome 2 de sa trilogie, de nouveau Prigo. Il a eu Prigo pour le tome 1 l'année dernière et il l'a eu encore cette année pour le tome 2.
Tu peux nous redire
C'est la cinquième saison en J'ai lu millénaire de J.K. Nemesson.
D'accord. Bon, eh ben, encore une lecture.
Ouais, c'est super. Dans ça fait penser un peu à la grande de la fin des Inter.
Ça intéresse, il y a des plateformes d'écriture comme Scribd qui permettent de rencontrer des relecteurs.
Ouais.
Et ça pourrait être pratique pour les groupes qui débutent.
C'est pas toujours évident non plus sur Internet, on ne sait pas toujours pourquoi les gens relisent et pourquoi les gens donnent des critiques. C'est comme.
Et puis après, vous avez des conseils en ligne. Moi, j'avais beaucoup apprécié les conseils de Yves Ménard, qui est le directeur en chef de la revue Solaris. Je ne me rappelle plus comment s'appelle son article. Conseil à l'usage des auteurs qui voudraient se mettre en place à Solaris, probablement. Et où il y a vraiment des conseils d'écriture affûtés et intéressants.
J'ai encore aussi écrit un truc, tout ce qu'il ne fallait pas faire pour ou Raymond Mézi, je ne sais plus.
C'est Raymond Mézi qui avait fait ça il y a longtemps.
Il faut faire son
passeur publié.
C'était toutes les grosses bêtises.
Mais ça concernait plus la communication avec l'éditeur que la rédaction du texte.
Ouais, c'est quelque chose aussi sur la
publication. Bah, plutôt sur la publication.
T'as du texte, c'est dans
la. Je crois que j'ai récupéré parce qu'elle est toute seule.
D'accord.
Je considère qu'on fait des.
Ah, merci.
Au revoir.